لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رامي شافر ان اسلام ce soir nous allons vivre une nuit paire, donc la nuit du 24e Ramadan. Et c'est la quatrième fois qu'on se réunit spécialement pour parler de la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr. J'espère que chacun parmi nous, hier, la nuit impaire du 23e, nous avons pu faire donc des efforts pour nous réveiller un peu plus tôt et faire l'ibadat comme on l'avait préconisé. Ça va Yassine, ça a été les tahajjud, les qiyamul layl, les dhikrullah, les du'as, les istighfar. Alhamdulillah, qu'Allah accepte les efforts de chacun et nous permet d'augmenter ce quota d'efforts pour la nuit du 25e, du 27e et du 29e. Mais comme on l'a dit, ce soir on va vivre une nuit paire, mais pour autant ça ne veut pas dire que c'est un jour de répit. Hein, souvent on a tendance à penser que bon, nuit impaire, on y va à fond, et nuit paire, bon, tranquille, il y a France-Biélorussie, il y a je ne sais quoi, on peut se lâcher un petit peu là, wallah. N'oublions jamais qu'on reste dans la dernière des cas du Ramadan. Hein, sanaoula, on reste dans la dernière des cases, c'est-à-dire les 10 jours les plus importants du mois de Ramadan, et on pourrait dire sans hésiter les 10 jours les plus importants de l'année, du calendrier islamique. Alors hier on avait essayé de comprendre, c'était extrêmement complexe, extrêmement compliqué, on avait essayé d'expliquer comment est-ce possible que dans deux continents différents ou dans deux pays différents, la nuit du destin peut avoir lieu alors que les gens suivent des calendriers différents. Ben ici à La Réunion, nous sommes le 24e ce soir. À Makkatul Mukarrama, pour eux, c'est le 25e. Donc, une éventualité que là-bas, c'est Laylatul Qadr. Et pour nous, il n'y a aucune possibilité que ce soit Laylatul Qadr, parce que c'est une nuit paire. Et hier, on avait essayé d'expliquer à travers différents exemples. Et en résumé, on avait conclu que, avec notre logique, avec notre conception des choses, avec notre relation spatio-temporelle, notre compréhension, notre approche des choses, on ne peut analyser la clémence d'Allah, la rahmat d'Allah, ni on peut analyser les bénédictions qu'Allah peut envoyer, et d'une manière générale, tout ce qui a trait à l'au-delà ne peut être décrypté et comprendre par un cerveau qui a été à l'origine conçu pour ce dunya. On avait expliqué par rapport à l'espace, par rapport au temps, quel est le décalage qu'il y a entre notre vision des choses, nos lois physiques et ce qui régit l'au-delà, et ça c'est Allah seul qui le sait. Et dans le même ordre d'idées, il y a une question qui nous a été posée ce matin, parce que Facebook, par SMS cette fois-ci, un jeune, une question intelligente, hein, la question n'est pas exceptionnelle, mais ce n'est pas un plaisantin, c'est quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance en permanence. Ce jeune nous a demandé que, voilà, vous avez cité dans différents hadiths qu'au moment de rompre le jeûne, le jeûneur a au moins un doua qui ne sera pas refusé par Allah Azza wa Jalla. Il a dit donc, voilà, est-ce que ça veut dire que si au moment de rompre le jeûne, je ne fais qu'un seul doua, ce doigt sera automatiquement accepté? Allez, logiquement, oui. Et le hadith dit bien qu'au moment de rompre le jeûneur a au moins un doigt qui sera exaucé par Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que si je vais faire 30-40 doigts, Inch'Allah, un doigt, une invocation sera acceptée. Donc il a dit que bon, on va faire du concret, je vais faire un doigt. Un seul, 4 secondes de doigt, et comme il y a un doigt qui doit être accepté par personne, ce doigt sera automatiquement accepté. Mais c'est dans la même logique. C'est dans la même illogique plutôt. Hein. Avec notre approche des choses, on ne peut pas dire que voilà, ça se passera comme ça. Bien comprenons que lorsqu'Allah a dit qu'il y a au moins, le prophète dit qu'il y a au moins un doigt qui est accepté, c'est-à-dire, c'est une incitation pour le musulman. Faites des doigts. Allez-y à fond, passez beaucoup de temps dans les doigts, demandez tout ce que vous voulez à Allah Azza wa Jal. Et quand on a déjà expliqué avant, hein, le prophète dit que même quand vos lacets, vos chaussures se cassent, vos chaussures sont cassées aussi, levez les mains, demandez à Allah Azza wa Jal. N'attendez pas que Allah vous protège, nous protège tous. N'attendez pas qu'on va passer un scanner pour voir si on a une tumeur. N'attendez pas qu'il y a de gros problèmes pour lever les mains et demander à Allah. Là, wallah, c'est dans les choses courantes, c'est dans la vie quotidienne qu'on prouve notre iman en nous adressant à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas pour rien si le prophète a dit Ad-du'a hu al-ibada. Le ibada, l'acte d'adoration, le culte, se résume à travers les invocations. C'est-à-dire que quand un musulman il lève ses mains et demande doua à Allah, ben ça résume tout. Parce que les ibadas, les ulama disent que les ibadas c'est at-tadallul wal-khudu', hein, le fait de se soumettre de s'abaisser, de se courber devant Allah en reconnaissant la suprématie d'Allah, en reconnaissant la grandeur d'Allah, en reconnaissant sa position de créateur et ma position de créature, et donc je suis aux ordres de mon créateur. S'il me dit de faire la salat, je fais la salat. S'il me dit de ne pas manger, je ne mange pas. S'il me dit de manger, je mange. S'il me dit d'aller tourner autour de la Kaaba cette fois, je le fais. S'il me dit de rester debout sous le soleil et de wukuf Arafat, je le fais. C'est-à-dire ma vie est pour Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Et dans le dua, je me soumets à Allah. Je suis un être humain, j'ai des problèmes et je m'adresse à une personne que je ne vois pas, à une personne que je n'entends pas, à une personne qui m'a jamais parlé, qui m'a jamais adressé un message. Mais malgré ça, la seule relation que j'ai avec cette personne, c'est la relation du cœur, la relation du iman. Je sais qu'Allah existe, je sais qu'Allah est mon créateur, et je sais qu'au moment où je parle là maintenant, Allah m'entend. Et je sais qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. D'accord ? Donc le doua, quand j'invoque Allah Azza wa Jal, c'est vraiment, ça concrétise ce sens profond de l'adoration, l'acte d'adoration. Chaque différence entre deux personnes qui font la salade au même saf, une personne il fait comme ça en somme de l'or parce qu'il faut compléter les 20 rakats, un peu comme moi, et une personne beaucoup plus sérieuse qui se soumet à Allah, qui est concentrée, même si la personne ne comprend pas la lecture du Coran, elle se dit que je suis devant Allah, je suis devant mon Seigneur, je suis devant mon Dieu, je ne vais pas me gratter, je ne vais pas me dresser le bonnet, je ne vais pas faire plein de choses inutiles, je vais contrôler mes pensées parce que je suis devant mon Seigneur. Je suis devant mon Créateur qui est en train de, pas de me regarder, qui est en train de m'observer. Ça, c'est vraiment la soumission. Et quand je pose mon front, sur la moquette pour la sijda, la personne qui n'est pas sérieuse attend le sijda pour dormir à 4 secondes, ça détend un petit peu, tandis que l'autre personne est pressée, lui il est pressé de faire le sijda pour délâcher, pour dormir un petit peu, et ça arrive, on peut s'endormir pendant le sijda, et l'autre attend le sijda parce que c'est la position où il est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il montre sa soumission, où il montre que j'adore Allah. Le mot adorer, c'est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord mes chers frères? Donc, quand on fait dua, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Faire dua, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des fois, vous levez les mains, vous ne savez pas qu'il faut demander. Si Allah ne vous a pas donné le tawfiq de faire dua. Parfois on est fatigué aussi, ça arrive, d'accord? Mais quand quelqu'un, il peut demander, se lever d'arajout, et quand il voit qu'il demande dua, il y va 20, 30, 40 minutes, et il y a, ça débite. Ça c'est un grand ni'mat de la part d'Allah. Umar ibn al-Khattab, si je ne me trompe pas, c'était lui, il disait que ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'acceptation des dua, c'est le tawfiq de faire dua. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Allah exauce mes invocations, mais c'est qu'Allah me choisisse, qu'Allah m'accepte pour faire les invocations, qu'Allah ta'ala me choisisse pour être parmi les gens qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour répondre à notre ami qui nous écoute, qui va nous écouter quand on sera enregistré, assurément, l'objectif, c'est quoi? C'est que le musulman fasse le maximum de doua, tout en sachant qu'il y aura au moins un doigt, Inch'Allah, qui sera exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, de la même optique, lorsqu'on aborde là ce soir les signes pour reconnaître la nuit du destin, il y a des signes qui sont visibles, qui peuvent être visibles, comme qui peuvent ne pas être visibles aussi, pour certaines personnes, en fonction de notre iman, de notre degré de taqwa, il y a des gens qui peuvent voir les signes d'Allah Azza wa Jal la nuit du destin. Parce que la nuit du destin, c'est une nuit merveilleuse où il y a des choses extraordinaires qui se passent avec cette rencontre, encore une fois, entre le monde de l'au-delà et notre dunya, avec une quantité de malaïka qui descend, Jibril alayhi salam, qui fait spécialement le déplacement de ce dunya pour la nuit du destin. Donc il y a des choses qui se passent dans l'atmosphère. Certaines personnes peuvent le voir. Mais là aussi, par rapport à la question des doigts, pareil, ce n'est pas parce que j'ai vu des signes de la nuit du destin que ça veut dire que bon, ça y est, c'est ce soir, je fais beaucoup de doigts et le reste des jours, il reste 6 jours, il n'y a plus besoin de me lever, de faire qiyam ul-layl parce que j'ai vu la nuit du destin, ce n'est pas ça l'objectif. Si Allah nous a donné tawfiq de percevoir certaines choses, alhamdulillah. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit délaisser les efforts. Le but, c'est de se donner à fond dans les 10 jours, comme on avait dit avant-hier. Sinon, le prophète, il nous aurait dit, c'est quand la nuit du destin. Allah Ta'ala aurait permis au prophète de divulguer. Mais Allah Ta'ala a retenu la science que notre prophète allait le dire. Et Allah Ta'ala a fait en sorte que le prophète ne puisse pas le dire. Afin qu'on fasse le maximum d'efforts, que les nuits soient payantes ou que les nuits soient impures. Il y avait un jeune sur Facebook ce matin qui disait que je suis pressé, lui par contre n'écoute pas, Allah Mustaan, je suis pressé de voir le nouveau visage de cette équipe de France, avec ses jeunes et tout, pour France, je crois que c'est ce soir France-Biélorussie, hein? D'accord, Mashallah. D'accord. Donc il dit, je suis pressé de voir le nouveau visage. Et que, donc, moi, je lui ai répondu, il met tac au tac. Normalement, ce n'est pas notre manière de répondre. Il dit que, hors de question, pendant le mois de Ramadan, on ne peut pas se permettre de regarder un match. Je ne peux pas me permettre de passer une heure et demie devant un écran, alors que je suis dans la dernière des quatre jours de Ramadan. Vaut mieux que tu dors. Vaut mieux dormir, rattraper le sommeil, pour se réveiller tôt et faire tahajjud. Franchement, je vous assure, mes chers frères, que celui qui regarde le match le soir, c'est une personne qui est remplie d'ingratitude. C'est une personne qui est en train de gâcher son temps. Vaut mieux ne rien faire, vaut mieux manger. Manger, festoyer, faites la fête, faites ce que vous voulez, hein, mais ne perdez pas votre temps devant quelque chose de dunya. Pam, ce soir. En dehors de Ramadan, je ne rentre pas de le masla. Regardez, pas regardez, c'est pas ça qui nous intéresse, mais pas maintenant. Pas de le Ramadan. Pas de la dernière des quatre, ça c'est inacceptable ça. Moi je trouve ça absurde qu'une personne puisse consacrer 90 minutes en une soirée de la dernière des quatre du Ramadan pour perdre son temps à regarder des joueurs jouer au football. Ça c'est khasara, heureusement. C'est un gaspillage de temps. Et ce temps-là, le jour de Qiyamah, on aurait pu en profiter et voir les récompenses si on avait passé ce temps dans l'adoration d'Allah ou ne serait-ce dans l'objectif de dormir. Avec le niat de reprendre des forces pour faire l'ibadat, ce sommeil-là aussi aurait été un ibadat. Donc déjà, si on ressort de cette assemblée avec ce niat sincère, sanaoula, je vois dans ton regard des choses, d'accord ? Avec le niat sincère que ce soir, pas de match, inshallah, ibadat ou sommeil, mais pas de perte de temps, pas de dunya de mon cœur, alors qu'Allah Ta'ala ouvre en grand les portes de la rahmat. Les portes du paradis sont ouvertes en grand, mes chers frères. C'est là-haut, c'est vers là-haut qu'on doit regarder et non pas ces personnes. Donc, pour revenir à notre sujet, voilà, on ne va pas être très long ce soir, on a déjà fait 12 minutes. Quels sont les signes de la nuit du destin? Alors, il y a des signes qu'on avait résumés un peu hier en rapport avec le soleil. Dans un hadith rapporté par Imam Ahmad, le prophète alayhi salatu wa salam a dit wa inna amaratuha anna shamsa takhruju, le hadith est un peu long, que parmi les signes de la nuit du destin, que lorsque le soleil se lève le matin, laysa laha shu'a Mithl al-qamari laylat al-badri, hein, que lorsque le soleil se lève sans qu'il n'y ait de rayon du soleil, c'est-à-dire que le soleil se lève mais c'est une lumière qui est assez douce comme la lune lorsque c'est la pleine lune, d'accord, c'est une lumière qui est douce, il n'y a pas des rayons. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on va scruter le soleil absolument, on va voir ces signes. Il y a des gens qui ont le tawfiq de le voir, qui peuvent le voir. Il y a des gens qui ne le verront pas, mais ça fait partie des signes de la nuit du destin. Et dans les commentaires de Muslim, si je ne me trompe pas, ça doit être Imam al-Nawawi, rahimahullah, qui fait ce commentaire. Il dit parce que les anna, c'est magnifique ça, les anna anwar al-mala'ikati inda su'udiha tatalaqa ma'a ash'at ash-shamsi. C'est-à-dire que parce que, on va voir dans un instant, que quand les malaïkas descendent, il y a toute la lumière qui est dégagée du corps des anges et qui donc vont atténuer un petit peu l'éclat du soleil au moment où il va se réveiller, où il va se lever. Et dans une version, il est même dit qu'après le lever du soleil, ah là, non, ça c'est un peu long. Il dit que oui, que Jibril alayhi salam, on ne parle pas de Jibril, que Jibril alayhi salam étend ses ailes. Et les ailes de Jibril alayhi salam sont de couleur verte. Et c'est uniquement pendant la nuit du destin que Jibril alayhi salam ouvre ses deux ailes qui sont de couleur verte. Et par rapport à l'éclat qui est dégagé des ailes de Hazrat Jibril alayhi salam, le soleil ne trouve pas sa clarté habituelle, c'est-à-dire sa lumière est atténuée. Bon, ça c'est une version, on n'a pas la source authentique, je ne sais pas si c'est rapporté par qui, c'est pour ça que bon, on ne considérera pas ça comme hadith, ça doit être l'opinion d'un savant. Pardon. Et dans certaines sources, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ça c'est hadith rapporté par Abu Daoud, que wa tusbihu shamsu sabihatiha saghira, subhanallah l'écriture, dha'ifa hamra. Le prophète a dit que lorsque le soleil se lève, la lueur du soleil est de couleur rougeâtre. il y a comme un aspect rougeâtre lorsque le soleil se lève. Et là encore, on le dit, peut-être qu'on le voit, mais peut-être qu'on ne le voit pas. Maintenant, imaginez qu'on scrute le lever du soleil pendant les 10 jours de la dernière décade et qu'on ne voit strictement rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de Laylatul Qadr cette année. Là, wallah. C'est que, bon, Allah nous a permis au fil de voir le signe. Mais ce n'est pas le plus important de voir le signe. Ce n'est pas grave, ça. Même si moi, j'ai vu des signes concrets, mais je ne me suis pas levé pour Laylatul Qadr. Je n'ai pas fait aucun namaz. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de récompense à voir les signes. Les récompenses, c'est de répondre présent. C'est d'être parmi les musulmans qui passent la nuit de l'ibadat et qui auront leur péché pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres signes concernant maintenant l'eau de mer. Dans une histoire, on va passer des histoires, c'est un peu long. Il y avait quand même celle-là de Zuhra ibn Ma'abad. Il dit que j'ai pris un bain dans la mer un soir de Ramadan. Et donc, il a dit qu'en prenant mon bain, j'ai glissé et je suis tombé donc le visage premier dans la mer. Et je me suis rendu compte que l'eau de mer était douce. Donc certains savants disent que la nuit du destin, ça s'est rapporté une histoire de Al-Fakhr al-Razi, le célèbre commentateur de Al-Tafsir al-Kabir, un grand tafsir connu. Il dit que lors de la nuit du destin, l'eau de mer perd son goût salé. Allahu a'lam. D'accord ? Je conseille à personne d'aller essayer, hein, avec les requins qu'on a ici. Allez pas prendre un bain le soir, on en ressortirait diminué. D'accord ? Également, parmi les signes de Laylatul Qadr, les arbres. Enfin, ça, c'est une histoire de Hammad ibn Shu'aib. Il dit que lors de la nuit du 27e, il dit que j'ai observé les datifs, فَإِذَا النَّخْلُ وَاضِعٌ سَعَفَهُ فِي الْأَرْضِ, que les palmes, comment on appelle ça, les palmes hein, du datier, hein, les branches, hein, les palmes du datier, étaient courbées, très courbées. Donc, selon eux, selon certains savants, c'est également, ça c'est rapporté par Ibn Rajab al-Hanbali, que cette histoire prouve que la nuit du destin, les feuilles ou les branches d'arbres sont légèrement courbées. Et dans certaines versions, bon ça, c'est rapporté de Anas radiallahu anhu, mais je n'ai pas la source, donc je ne peux pas dire si c'est un hadith ou autre chose, dit que les chiens n'aboient pas, ou alors n'huelent pas lors de la nuit du destin. Allahu ta'ala. Très souvent, on sait que les chiens huelent lorsqu'il y a des shayatines qui descendent. D'accord ? Et bon, ça peut être plausible par rapport au fait que la nuit du destin, il n'y a pas de sihr, il n'y a pas de sorcellerie qui peut être mise en pratique, qui peut être exécutée, il n'y a pas de choses mauvaises qui descendent de la dunya. Donc, on peut conclure que certainement par rapport à ça, les chiens ne vont pas, ne crient pas ou n'hurlent pas lors de la nuit du destin. Wallahu a'lam. Également, le ciel est éclairé. Hein, le hadith dit que « Inna amarati laylatil qadri anna safiya balja » que le ciel est naturellement illuminé. Même s'il n'y a pas lune resplendissante ou autre chose, il y a une certaine clarté dans le ciel lors de la nuit du destin. Et le dernier signe, la barta fiha wa la had, il y a une brise qui n'est pas du vent chaud ni du vent très froid, mais il y a une brise douce lors de la nuit du destin. On est à 18 minutes, on va s'arrêter là. Donc, ce sont là quelques signes qui nous permettent de reconnaître la nuit du destin. Mais comme on a dit, le plus important, c'est pas de reconnaître les signes. Le plus important, c'est quoi ? C'est de répondre présent, d'être réveillé, de faire l'ibadat lors de la nuit du destin. Alors, il nous reste deux points très importants. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les choses exceptionnelles qui ont eu lieu pendant la nuit du destin? Alors on va juste les citer. Il y a que les actions sont multipliées, les récompenses, et la chose la plus importante, c'est la destinée qui est écrite. Et Inch'Allah, sur l'un d'un tawfiq et la vie demain, on va essayer de voir que la question du destin est extrêmement complexe, mais on va voir que les ulama disent qu'il y a à peu près 5 catégories de destins différents. Il y a 5 catégories de taqdir différents, et on va voir lors de la nuit du destin quel genre de destin. On sait, on a déjà entendu que lorsque le bébé, on parle plutôt du fœtus qui est dans le ventre de la maman, lorsque le ruh est posé et entre le corps, l'ange qui vient, il y a certaines choses qui sont écrites, comment cette personne va vivre, heureuse, malheureuse, ces choses, telles choses. Mais alors, si on a déjà dit que les anges ont écrit ça par ordre d'Allah, c'est son destin, quel rapport maintenant avec la nuit du destin, la Laylatul Qadr qui se renouvelle tous les ans? Mais ça nous fait bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul tahdir. Il y a différents tahdirs. Il peut y avoir le tahdir de la vie, il peut y avoir le tahdir annuel, le tahdir journalier, etc., etc. On va essayer de décrypter ça, Inch'Allah, demain. Et parmi les choses qui se passent dans l'année du destin, le pardon de la part d'Allah et l'acceptation des du'as, et entre autres la descente d'une quantité de malaïka comme jamais le dunya n'accueille durant toute l'année. Jamais la terre n'accueille autant d'anges que lors de la nuit du destin. Mais ça, ça fait partie du monde de l'invisible. C'est des choses que nous ne voyons pas, mais ce sont là des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir également pourquoi est-ce que les anges viennent en quantité. C'est une nuit bénie, mais certains ulama sont d'avis qu'il y a une autre hikmat pour laquelle les anges descendent dans la nuit lors de la nuit du destin. Et il nous restera en dernier à voir pourquoi est-ce qu'Allah ta'ala nous a accordé cette nuit du destin. Qu'est-ce qui fait que nous, musulmans de la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu de la part d'Allah le Laylatul Qadr alors que les autres communautés ne l'ont pas eu? On a vu que les autres communautés, ils ont eu le Ramadan comme nous. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Déjà vu ce verset maintes et maintes fois. Le Ramadan nous a été prescrit, le jeûne comme il a été prescrit aux autres communautés. Mais eux, ils n'avaient pas eu Laylatul Qadr. Mais nous, on l'a eu, c'est pour un but précis qu'Allah azza wa jal nous a accordé la nuit du destin. Et le point essentiel, je pense que ce serait bien de voir ça demain. Demain sera la nuit du 25e. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions précises qu'on doit faire? Les actions sur lesquelles on doit donner le plus d'importance? Inch'Allah, on va essayer de voir ça demain. Et puis, servant d'un tawfiq, quand on aura terminé tout ce qu'on a dit à la semaine du destin, si on peut aborder, Inch'Allah, quelques questions du tafsir, des questions qui reviennent parfois, des questions complexes, des questions que parfois les gens ont honte de poser concernant le destin, des questions qui parfois peuvent traduire un manque de confiance sur le destin. Mais on va essayer de décortiquer, voir comment est-ce que le musulman, avec sa foi, peut comprendre la complexité du qada ou al-qadr. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. N'oublions pas ce soir, nuit PA, d'accord, mais quand même, nuit de la dernière décade, on fait les mêmes efforts qu'on fait pendant les nuits impaires. Qu'Allah nous accepte. Et accepte nos doigts, accepte nos ibadat et nous donne la possibilité vraiment de faire partie de ces personnes qui, la nuit du destin, seront réveillées et verront l'intégralité de leurs péchés effacés et, inshallah, l'intégralité de leurs doigts exaucés. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.